Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et j'ai eu de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel je donne vie à plein de projets. Pour ne pas y consacrer trop de temps, étant donné que cette introduction est toujours trop longue à mon goût, je vous invite à aller voir mon site www.superphysique.org. Sur lequel vous pouvez retrouver notamment un forum de musculation, vous pouvez poser vos questions, échanger avec d'autres pratiquants, des articles, également des vidéos, mais aussi une marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition, surtout destinée à améliorer la santé, aussi consacrée aux sportifs qui souhaitent donner le mieu à leur corps. J'ai envie de dire que, étant donné que je suis le premier consommateur de ce qu'on fait et que je suis souvent à l'origine avec mon associé Fabrice et avec Loïc, alias Street, des nouveaux produits. C'est nous qui choisissons ce qu'on propose ou pas. Et ben, on essaye de faire le plus qualitatif possible pour ne pas s'empoisonner. Bref, c'est sur superphysique.org ou directement sur superphysique-nutrition.fr. Également, l'application SP Training dont j'ai parlé la semaine dernière, la V3 qui est sortie sur Android, où pas mal de petits bugs, pardon, ont été corrigés cette semaine. Donc, à mon avis, tous ceux qui sont sur Android doivent être bien contents de cette V3. On voit d'ailleurs que vous êtes assez nombreux à la télécharger. Je rappelle que vous pouvez l'essayer un mois gratuitement, sans obligation de s'abonner. Il y a pas mal de fonctionnalités. Je reparlerai un peu plus en détail quand la version iOS sera ressortie. Je ferai peut-être un peu plus de pub parce que c'est vraiment quelque chose pour moi qui est révolutionnaire, entre guillemets, qui est révolutionnaire parce que c'est aussi à mettre dans le contexte de la musculation de ceux qui s'entraînent. Donc c'est pas non plus une révolution planétaire. Mais bref, la version iOS devrait sortir normalement fin de semaine en fonction de la vitesse à laquelle Apple va valider cette V3 de l'application. Si c'est pas d'ici fin de semaine, ce sera début de semaine prochaine. En tout cas, moi, j'ai hâte parce que je suis, comme beaucoup d'entre vous, sur iOS. Et donc, j'ai hâte d'utiliser le petit chat Rudy un peu plus longtemps qu'en phase de test pour voir si, sur le long terme, il met presque ou exclusivement ce que moi, je mets à mes élèves chaque semaine lorsqu'ils m'envoient des résumés. Donc, j'ai vraiment hâte de tester sur du plus long terme pour voir si notre chat Rudy, notre petit bot qu'on a mis, fait vraiment le job presque parfaitement. Il ne le fera évidemment pas parfaitement parce qu'il y a aussi une notion de relation humaine, de contact humain, même à distance, de discussion, de communication, qui a moins sur l'application évidemment, d'où le prix beaucoup plus faible qu'un coaching à distance. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous êtes sur Android, à la tester, sur iOS, dès qu'elle arrive, à la tester et à faire des retours si vous souhaitez des améliorations particulières. On note absolument tout et après, on fait ce qu'on juge le plus utile, le plus intéressant. Sans dénaturer non plus notre vision de ce qu'on souhaite que devienne l'application SP Training. Aussi donc, mon site rudycoya.com, rapidement, site sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des livres et formations. Je rappelle que j'envoie les livres une fois par semaine, que ce soit le guide de la prise de masse naturelle ou le guide de la sèche naturelle. C'est le condensé de plusieurs centaines de pages de mon expérience en tant que coach, donc depuis 2006, sur comment bien s'alimenter pour prendre du muscle, ou pour perdre du gras, au choix, en fonction de notre objectif. Mais il y a également des formations en fonction de notre morpho-anatomie. Je reçois également de plus en plus de demandes actuellement de coachs qui sont intéressés pour suivre la formation Superphysique sur méthodesp.rudicola.com. Je rappelle que si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter via le lien dans la description, directement via le site, pour un paiement en plusieurs fois. Il n'y a pas de souci pour ça. Bref, s'il y en a que ça intéresse, qu'ils me contactent et on discutera, voir ce qu'on peut faire ensemble. Et enfin, mon site secretsducarrière.org, auquel est adossé mon podcast Les Secrets du Sport, qui n'est pas un podcast mainstream, mais qui est un podcast, j'ai envie de dire, de spécialistes, où je pose des vraies questions en termes d'entraînement à des spécialistes, à des athlètes, à des entraîneurs, à des gens que j'estime. Là, l'épisode 50 est sorti, et je galère, comme d'habitude, comme je vous en parle chaque semaine, à trouver de nouveaux invités. Comme je n'interroge que des personnes qui m'intéressent, bah, parfois, je n'ai pas de réponse. Des fois, j'ai des réponses, des demi-réponses. Et quand je relance après, il n'y a plus de réponses. Bref, on verra comment ça évolue. Je ne veux pas faire du mainstream. Je ne veux pas poser des questions à la con. Je ne veux pas faire des interviews CV, des podcasts CV, comme quelqu'un m'a dit ce week-end. Ça ne m'intéresse pas trop. Il y a assez de podcasts qui le font. Mais vraiment, poser des questions d'entraînement. Donc, bref, il y a des personnes que j'ai contactées, de qui j'attends des réponses. On verra. Après, comme c'est pour le plaisir. Bref, si ça vous intéresse, le secret du sport, c'est tous les mardis à 10h30. Et si vous n'avez jamais écouté, je vous invite à le faire. Il y a déjà 50 épisodes. Et avant, il y a quelques épisodes hors série qui étaient secrets du kayak, qui sont également très intéressants, notamment sur l'imagerie motrice, les préférences motrices, la respiration, le système cardio-respiratoire. Bref, il y a pas mal de hors-série dans Secret du CAC, qui était le podcast précédent, qui sont assez exceptionnels. Et donc, dans ces podcasts Leadercast, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, ça fait maintenant un peu plus de 7 ans que je vous partage mes réflexions personnelles à partir des discussions que je peux avoir, des livres que je lis, des documentaires que je regarde, sachant qu'une bonne partie de mon travail, entre guillemets, de ma vie, ouais, parce que le travail souvent c'est connoté négativement, consiste à chercher des réponses à mes questions et donc à lire des livres, à regarder des documentaires. C'est quelque chose que je fais, on va y revenir aujourd'hui en détail, suite à la lecture d'un livre, avec plaisir, avec envie. Je ne prends pas ça comme un travail, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Et donc, je partage tout ça dans l'optique d'une vie plus choisie. Alors, bien sûr, c'est à remettre en contexte par rapport à ce que je vous ai expliqué de mon avis sur le moment de la semaine dernière, sur, pas la prédestination, mais comme quoi on était tous plus ou moins finis, avec des capacités d'évolution qui ne dépendaient pas spécialement de nous. Une sorte de déresponsabilisation et en même temps responsabilisation, parce qu'on ne sait pas non plus de quoi on est capable, qu'est-ce qu'on va faire ou pas. Mais il n'empêche que c'est une grosse partie de mon travail et c'est pourquoi, avant que j'attaque, j'allais oublier, je propose sur patreon.com/leadercast une rubrique privée où je vous partage mes meilleurs liens de la semaine, à savoir bah, les meilleurs podcasts ou les meilleures vidéos ou les meilleurs documentaires, souvent des choses qui sont consultables directement, parfois des livres, mais c'est rare ou c'est en bonus, parce que le but c'est que ce soit directement accessible. C'est souvent des super liens et ça vous évite bah, de perdre du temps à écouter des trucs qui sont nuls. Des fois, j'écoute des trucs, je coupe vite fait ou j'accélère et je vois que c'est affreux. D'ailleurs, une bonne technique pour écouter des podcasts, je ne sais pas si vous le faites avec Leadercast, parfois c'est de mettre la vitesse du son en 1,5, 1,25 ou 1,5. 1,25, des fois, ça passe crème, on ne sent pas la différence. 1,5, des fois, c'est un peu rapide, mais ça permet d'écouter les podcasts un peu plus rapidement. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je fais souvent. Sauf si la personne parle très 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 lentement, pour garder une certaine compréhension. Après, j'ai l'impression que dans ma tête aussi, ça va très vite. Donc quand je lis quelque chose, je me dis, mais comment tu fais pour lire autant ou aussi vite? Ben, en fait, tout va très vite dans ma tête, et pour écouter, c'est un peu pareil. Je pense que ça s'entend quand je parle, parce que j'essaye de ralentir quand je parle, mais des fois, je m'emballe, et je parle aussi vite que dans ma tête, du moins, je crois. Donc, bref, je vous partage ça. Donc ça, c'est tous les dimanches sur patreon.com, ça. Leadercast, en lien dans la description, et en vous y abonnant, vous avez accès à toutes les anciennes revues de presse. Donc là, on en est à 58 ou 59, donc plus de 150 super liens. Et en plus, il y a tous les mercredis le podcast des Patriotes, sur lequel je vous partage de l'actualité bien fraîche, que je souhaite pas spécialement partager en public. Je vous laisse aller voir. Pareil, vous avez accès à tous les anciens quand vous vous abonnez, sachant que l'abonnement, vous pouvez prendre un mois et vous êtes en vacances et tout poncer, et vous désabonner. Ou. À l'inverse, restez tout le temps parce que vous allez voir qu'il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des trucs super intéressants. Et donc, j'en profite pour remercier ben, les nouveaux patriotes de la semaine, à savoir Rémi, Madvim, Guillaume, Kevin. Kevin, c'est un retour. Kevin qui suit assidûment, que je verrai sans doute à 9h, je vais revenir après. Et Camille, merci à vous les gars. J'espère que vous vous régalez. Et j'espère que ce n'est que le début. Donc, bref, si ça vous intéresse, c'est en lien dans la description. Et c'est drôle parce que la fois, je parlais avec je ne sais plus qui de ça. Et la personne me disait, mais comment tu fais pour écouter autant de podcasts? Je ne sais pas quoi écouter. Et c'est vrai que le milieu du podcast, j'ai fait mes tout premiers podcasts, c'était 2010 ou 2011, où en fait, on enregistrait des conversations, on va dire, des interviews. En fait, les premiers podcasts, c'était des interviews que j'enregistrais à l'oral et que je retranscrivais à l'écrit. Donc, c'était un boulot de dingue. Je me souviens d'une interview que j'avais retranscrite de Jean-Louis Skoazek, donc le père de Yann, qui est dans la team Superphysique, que j'avais eu au téléphone. Donc ça, c'était un peu après, peut-être 2011-2012. Et bref, et j'avais eu au téléphone pendant des heures, des heures, des heures. Et donc à l'époque, j'enregistrais avec un autre téléphone ou quoi. Bref, c'était j'appelais avec le fixe et j'enregistrais avec mon téléphone portable. Le son était affreux. Et je crois que j'avais retranscrit près de 40 pages que je lui avais envoyées. Et ensuite, bah donc, il n'y avait pas d'ordinateur, donc j'avais envoyé par la poste, il m'avait renvoyé, j'avais dû supprimer genre une vingtaine de pages, quoi, parce que bon, il y allait franco. Et bref, et c'était ça. Et donc, la première interview, je pense, le premier podcast, la première interview audio, je pense que c'est avec Christophe Cario, qui nous avait contacté à l'époque. Christophe, si tu m'écoutes, bien le bonjour, comme d'habitude. Une référence dans le milieu du sport, à mes yeux. Et vous le savez, il n'y en a pas 15 000 des références. que j'avais interviewé, que j'avais contacté suite au lancement de Superphysique, notamment sur ce côté musculation sans dopage. Et bref, tout ça pour dire que beaucoup de personnes me disent, voilà, mais comment tu fais pour trouver des podcasts? Comment tu trouves le temps pour tout écouter? Et en fait, pour écouter, pour moi, c'est assez simple, parce que la plupart du temps, étant seul, quand je mange le matin, ben, j'écoute un podcast. Quand je m'étire, j'écoute un podcast. Si je vais au kayak, c'est un peu loin de chez moi, j'ai le temps d'écouter au moins un podcast en aller-retour. Quand je vais faire une autre activité un peu tranquille, ben, je vais écouter un podcast. Donc parfois, ça peut m'arriver d'écouter 3-4 heures de contenu. Je dis podcast, mais ça peut être aussi vidéo. Parce que souvent, je ne regarde pas la vidéo, j'écoute par jour. Et donc forcément, en fin de semaine, si j'écoute entre 20 et 30 heures de contenu, ben, j'ai forcément 3 ou 4 heures à vous partager qui sont bien. Mais c'est vrai que le nombre de podcasts est assez ahurissant. J'ai l'impression qu'on assiste comme YouTube à une époque où on était très très peu à faire des vidéos. En 2007, je crois qu'il n'y avait que moi et peut-être Michael Gundy en milieu de la muscu. Il y avait Yann de la team qui met aussi des vidéos de posing, il y avait Coston pour ceux qui se souviennent. Bon, bref, c'était il y a presque 20 ans, ça ne nous rajeunit pas. Et après, bah, vers 2012-2013, ça a commencé à monter. Au début, on n'était que deux à faire vraiment des vidéos de muscu contenu. Il y avait Théo, donc Théo Fitness Miss, qui fait toujours un peu de contenu, qui se passe le bonjour également. Et moi-même, donc ça m'avait poussé à continuer. Et après, bah, il y a eu l'explosion 2015-2016. Puis maintenant, bah, tous les jours, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait une nouvelle vidéo avec un drone, avec une super qualité d'image, tout ça. Et là, j'ai l'impression que depuis quelques mois, c'est le podcast où tout le monde s'est rendu compte que lancer un podcast, c'était pas si compliqué, qu'il te fallait juste un micro ou parfois même ton téléphone et des oreillettes, un petit logiciel d'enregistrement à distance comme Zoom ou Google Meet ou Riverside ou Zencast, ou bref, il y en a plein, je vous laisse chercher. Si vous voulez les tester, n'hésitez pas à tester. Personnellement, je suis plus adepte de Zoom, mais c'est vrai que on sait plus trop où donner de la tête. Et même moi, des fois, je dis, putain, mais c'est quoi ce podcast? Et tu découvres des trucs. Alors, pour moi, qui suis un grand consommateur, ça va, mais qui cherche tout le temps et voilà, qui écoute avec plaisir, qui a du temps pour ça, c'est cool. Mais j'imagine que pour vous, bah, c'est un peu perturbant. Et bah, comme d'habitude, je vais donner un conseil, il n'était pas sollicité, mais quand on ne sait pas quelle source suivre, quelle source adopter, à qui faire confiance, ou ça, il y a deux conseils que je donne. Le premier, c'est se focaliser sur seulement quelques sources, voire une seule, par thématique. C'est le premier point. Poncer tout le contenu de quelqu'un pour comprendre un peu sa manière de penser, sa philosophie, le langage qu'il utilise. Parce que parfois, personne d'entre nous utilise le même langage que quelqu'un, même si on se comprend. On a tous nos petites expressions, notre petit humour, nos blagues un peu pourries. Je bois un petit coup. Et la deuxième chose, c'est de ne pas prendre pour acquis ce que dit la personne. On va voir aujourd'hui, j'ai reçu des commentaires, et je sais pas, il y en a un auquel je ne sais pas trop quoi répondre. Je sais, entre guillemets, j'ai un avis, mais c'est de remettre en question. De ne pas prendre pour acquis, de ne pas se dire, ah oui, bah évidemment, évidemment. Ok, mais c'est de se remettre en question, remettre en question ce que dit la personne pour dire, oui, est-ce que ça marche pas? Je vais tester. Plein de personnes ont peur de tester des choses, tester et voir ce que ça donne. Donc, c'est les deux conseils que je peux vous donner en termes de podcast. Écoutez tout un podcast. Moi, ça m'arrive des fois, je découvre des podcasts, genre 20 ou 30 épisodes, où des fois, ils n'existent plus. Là, ils sont plus entretenus et j'écoute tout. Et je me fais un avis. Là, j'avais découvert un podcast sur l'avion qui était super et puis qui s'est éteint. Donc j'étais un peu déçu. C'était assez intéressant, du moins pour moi. Et bref, donc voilà. Essayez de ne pas vous disperser. Le pire, c'est de se disperser parce qu'on n'apprend rien. C'est comme lire 15 livres à la fois. Bah, tu n'y arrives pas. Tu lis d'abord un livre, puis tu en lis un deuxième. Voilà. En avoir plusieurs en même temps, il y a des exceptions. Il y a le contre-exemple comme d'habitude. Mais en général, on retient mieux qu'on en lit un à la fois. Aussi, avant que j'oublie, je voulais dire que je serai à Nevers, donc le 27 et 28 avril, donc c'est dans 3 semaines. Ouais, 3 semaines, donc ça va assez vite. Pour l'Elite Training Symposium, donc j'en ai parlé la semaine dernière, il y a un petit code pour ceux qui veulent avoir 20% de réduc. Vous savez ce que je pense des réductions, des promotions, bref, je ne vais pas y revenir. Mais il y a un petit code réduc. Donc si ça vous intéresse de venir, donc je pense que Kevin, tu seras là et qu'on se verra. Et que d'autres aussi se verront. N'hésitez pas à me contacter si on se voit sur place, que je sache qui est qui, voilà. C'est toujours plus simple pour échanger. Un premier contact facilite la rencontre, comme on dit. Donc, Elite Training Symposium, vous tapez sur Internet, il y a un code SP20. Et voilà, si ça vous intéresse, je parlerai notamment d'analyse morpho-anatomique, mais de manière rapide. Mais surtout, il y a des trucs hyper intéressants. Moi, il y a déjà un truc qui m'intéresse, c'est l'iso-inertiel de mon collègue, on va dire entre guillemets, Gaël Faury. Ça, c'est sûr que je ne vais pas le louper. Étant donné que j'ai acheté sa machine que je n'ai toujours pas installée. Suite à quelques petits problèmes dont les patrons sont au courant l'année dernière. Donc voilà. Donc ça va être intéressant. Il y a plein de trucs sur la VBT aussi. Bon, ça j'ai fait un peu le tour, mais je vais quand même aller revoir. Il y a des trucs sur l'endurance. Il y aura mon pote Nico Vandel. Il y aura Tristan. Il y aura Sean. Il y aura également Vincent, que j'avais interviewé sur le secret du sport, qui est une machine. Il y a Fred Aubert. Bon, là, c'est une légende, donc il est bien au-dessus de nous. Donc bref, je vais pas citer tout le monde. Il y a que des cadors, C-Sport, Didier Race. Ouais, il y a que des cadors. J'en oublie. Mais bref, si ça vous intéresse, c'est plus un événement pour les gens qui sont intéressés, pour les passionnés, pour les curieux, pour ceux qui cherchent des réponses à ces questions. Voilà, c'est plus un truc de coach que de touriste. Donc voilà, je pense que certains d'entre vous sont pas que des touristes. Donc ça vous intéresse, c'est l'événement de l'année pour les coachs, pour se former, pour se faire du réseau. À ceux qui veulent devenir préparateur physique et qui sont peut-être mes élèves et qui se disent « Ah, j'aimerais devenir préparateur physique », c'est un événement qu'il ne faut pas louper pour se faire du réseau. Ça ne marche que comme ça, la préparation physique. Sinon, vous serez préparateur physique derrière votre ordinateur, ce qu'on n'appelle pas être préparateur physique. Bref, je vous laisse aller voir tout ça. J'ai reçu pas mal de commentaires la semaine dernière. Je vais en lire un d'abord d'Olivier. Donc Olivier, je le connais bien. Il était venu à la Villa Superphysique. Je rappelle qu'il y en a que ça intéresse. C'est le seul endroit où j'en parle dans ce podcast. C'était venir quelques jours sur Annecy, du moins à proximité d'Annecy, là où je vis, à la Villa Superphysique, afin de découvrir la région, à l'instar d'un Airbnb, mais avec ma présence. Et si tout se passe bien et que j'ai mon kayak biplace qui doit arriver, je vous emmènerai avec plaisir faire du kayak. Il n'est pas encore arrivé, mais j'espère prochainement. Bref, aller à la salle de muscu, Superphysique Gym, discuter, refaire le monde. Bref, n'hésitez pas à me contacter. Il y a le lien dans la description et on discutera des possibilités. Je vous enverrai des photos, étant donné qu'il y a une salle de bain qui est en train d'être finalisée, d'être refaite. Donc, vous inquiétez pas, vous serez aux petits oignons. Et en plus, voilà, comme je dis, on pourra refaire le monde et vous verrez mon chien diabolique, Belzébuth. Bref, donc Olivier, qui était venu à la Villa Superphysique. Je lis juste la partie qui nous intéresse particulièrement. Je pensais te le conseiller bien avant d'avoir écouté ton dernier LeaderCast. Le livre Découvrir un sens à sa vie grâce à la logothérapie. Et il se trouve que dans les dernières pages, l'auteur exprime bien ce que je souhaitais t'exprimer concernant le libre arbitre et notre conditionnement. Avant tout, il est dangereux d'enseigner que l'être humain est uniquement le produit des conditions biologiques, psychologiques et sociologiques, ou encore de l'hérédité et de son environnement. Une telle vision de l'homme incite le névrosé à croire qu'il est enclin de croire de toute façon qu'il soit la victime d'influences extérieures ou de circonstances internes. Ce fatalisme névrotique se trouve renforcé par une psychothérapie qui nie la liberté de l'être humain. Je vais réagir à cette partie, Olivier, parce que pour moi, elle est importante. C'est pas parce que tu penses que les choses sont déjà écrites, que tes possibilités sont déjà écrites, que tu dois, entre guillemets, baisser les bras et ne pas faire certains efforts, je sais pas, peut-être pour maigrir, pour faire du sport, pour lire un bouquin, pour apprendre une langue, pour faire un site internet. Hier, j'ai un élève, il me dit, ouais, comment on fait un site internet? Je lui dis, bah, mais aujourd'hui, c'est la rigolade. Je lui dis, tu tapes faire un site internet, en une demi-journée, tu as fait un site internet. C'est pas le plus beau, mais après, tu pourras le modifier facilement. Bref. Ce que je voulais dire la semaine dernière, c'est que je pense que beaucoup de choses sont écrites. Et peut-être que tout est écrit. Peut-être que nos capacités sont déjà écrites, et on va y revenir avec le bouquin que j'ai lu cette semaine. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter et baisser les bras pour tout et faire preuve d'aucune combativité, d'aucune. D'aucune ambition, parce qu'en fait, tu ne sais pas, et c'est ça le truc, c'est tu ne sais pas ce qui est écrit et ce qui va s'écrire. Tu n'as aucune conscience du futur qui t'attend, tu ne le sais pas. Et donc, ce que je veux dire, c'était plutôt que, en fait, il y a des choses qui vont se faire facilement. Tu vois, pour moi qui donne des cours en BPJEPS, et c'est beaucoup de jeunes, je peux déjà te dire qui va continuer la muscu ou qui va pas continuer, qui va faire 5 ans non-stop ou qui va faire 1 an ou 2 et puis arrêter et puis reprendre et puis en fait pas vraiment faire de la muscu et c'est pas très grave. Tu vois, il y a des choses qui sont déjà écrites. Mais ça veut pas dire que tu dois pas essayer, que tu dois pas faire, tu dois pas chercher à te trouver entre guillemets parce que de toute façon on se trouve jamais vraiment. Voilà, on évolue aussi, du moins ceux qui se remettent en question, c'est-à-dire normalement vous qui m'écoutez depuis longtemps. Mais tu vois, c'est pas une question d'être fataliste ou névrosé. C'est plus une question, j'ai envie de te dire, de dire, voilà, il y a des choses qui se passent, je suis obligé de les accepter, j'accepte ce qui m'arrive, mais ça ne m'empêche pas de chercher des solutions, si j'ai envie de chercher des solutions à ce qui m'arrive pour essayer de faire mieux. Je te prends un exemple, la course à pied, j'en parle sur Patreon, donc tu vas sans doute écouter, j'en ai parlé ce matin Voilà, bref, sur le podcast privé. Tu vois, chaque fois que je cours, il m'arrive toujours des galères. Pourtant, j'ai l'impression de faire les choses correctement, de faire plein de trucs. J'ai quand même creusé le sujet. La dernière fois, il y a mon pote Nico Martin que j'ai interviewé sur Secret du sport qui a lu mon article. Il m'a dit, putain, mais en fait, c'est super. Voilà, je pense pas que limite on puisse faire plus complet. Donc, j'ai quand même bien compris le truc, que ce soit même sur les godasses, le matos, tout ça. Je suis assez friand de tout ça. Encore une fois, ça fait partie de mon travail, de mon plaisir, de mon envie de suivre tout ça, d'être au courant. Mais ça n'empêche pas, tu dois accepter. Tu vois, si demain tu te fais une hernie discale, tu fais mal quelque part, tu acceptes la douleur, tu acceptes le truc. T'acceptes que ce soit un signal que ton corps t'envoie, un signe du destin, peu importe, mais ça ne doit pas t'empêcher. Si toi, tu as envie, tu as le truc de je vais chercher ce que j'ai, comment, pourquoi j'ai ça, chercher des raisons. Parfois, il n'y a pas de raison. Tu sais, c'est comme quand tu te sépares, tu es en couple, tu te sépares. Des fois, tu as une raison, des fois, il n'y a pas de raison. Tu peux chercher toute ta vie le pourquoi du comment. Tu acceptes, mais ça ne t'empêche pas de faire des choses parce que c'est peut-être ton destin. Tu vois, donc ce n'est pas une question de fatalisme ou de névrose, j'ai envie de te dire. C'est plus que tu as des choses qui sont en toi, parce que, on y reviendra après par rapport au bouquin que j'ai lu encore une fois, c'était ton éducation, c'est ta génétique, c'est comme ça que tu as grandi, tout ça, sur lesquels c'est très très difficile de revenir. Tu es dans un environnement particulier, tu vois, dans ton texte, tu dis voilà, l'être humain est uniquement le produit des conditions biologiques, psychologiques et sociologiques, ou encore de l'hérédité de son environnement. Et ça commence à faire beaucoup, oui, biologique, psychologique, sociologique, hérédité, environnement, bah ouais, c'est pas un seul truc, mais c'est un ensemble de choses sur lesquelles t'as du pouvoir, plus ou moins. T'as des gens, ils sont pas prêts à quitter leur environnement qui est néfaste, alors que le changement d'environnement, souvent, amène des opportunités, amène des possibilités. Donc je dirais que c'est pas... Tu vois, moi, quand je dis ça, j'ai souvent le sourire, tu vois, je dis, quand je dis tout est écrit, c'est pas une question de... Alors peut-être parce que ça se passe bien pour moi, mais ça ne doit pas empêcher en tout cas de faire des efforts parce que tu ne sais pas où ça va te mener, tu ne sais pas quelles sont tes possibilités. J'avais fait un podcast il y a des années, où je répondais à Xavier qui était une de mes élèves qui fait maintenant du power, qui m'avait demandé à l'époque de faire du power et moi j'étais pas trop chaud. Voilà, je voulais pas, dans ma vision, avec le recul de mon expérience, faire de la force athlétique, ça finit très mal. Et donc je voulais pas la détruire prématurément, déjà que la muscu, si c'est mal fait, ça détruit un peu prématurément. Et même bien faite, ça détruit quand même un peu plus naturellement, ça use en tout cas, la muscu intensive, et donc je voulais pas, et à la fin elle s'était mise à faire des compètes avec un autre coach, tout ça, et ça se passait plutôt bien, et là je crois qu'elle continuait, bon, bref, ça fait longtemps que j'ai pas vu passer ces infos, mais je pourrais aller voir, Xavier, si tu m'écoutes, bien le bonjour aussi, j'espère que ça se passe bien, mais tu vois, j'ai fait un podcast pour dire, ben voilà, c'est pas à moi de déterminer les possibilités de chacun, et c'est même pas, je veux dire, c'est à toi-même. Je vais aller plus loin, c'est à toi-même, à moi-même, à chacun d'entre nous de déterminer ce qu'il croit possible, ce qu'il croit capable de faire par rapport à ses croyances. On en revient au premier chapitre de mon livre The Leader Project, en lien dans la description pour ceux qui s'intéressent. Tout part des croyances que tu as. Tout part des... À chaque fois que j'écoute des podcasts ou des trucs, c'est pas compliqué, ça part des croyances que tu as. Ce que tu crois définit ce que tu vas faire, ce que tu ne vas pas faire, ce qui va se passer, comment ton livre va se dérouler. Tu vois, même si déjà tout est écrit, tu vois, c'est pas pour ça que tu dois accepter ta condition ou pas. Tu peux choisir, je dis choisir entre guillemets, de ne pas accepter. Tu vois, c'est écrit que tu vas choisir de ne pas accepter. Enfin, donc, c'est pas une question de névrose, tout ça. Tu vois, moi, je le vois plutôt de manière positive, dans le sens, fais confiance à la vie. Si tu fais des efforts, des trucs, tout ça. Il va y avoir des trucs bien, bien sûr, ce sera peut-être pas aussi gros que ce que tu pensais, voilà, mais aussi important aux yeux de tous. Mais au final, on se rend bien compte avec les années que aux yeux de tous, on n'en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est de s'épanouir, de faire des trucs. Tu vois, je dis souvent, et on voit plein de trucs sur comment être heureux. Je t'explique comment être heureux. Ça commence le matin et tu dis, je vais être heureux aujourd'hui. Je suis quelqu'un d'heureux. Et bon, voilà, c'est réglé. Quelqu'un qui est heureux, il se pose pas la question, il est heureux, point. Tu vois, il n'y a pas de question à se poser. Qu'est-ce que je dois faire? Enfin bon. Bref, non, en tout cas, merci Olive. Ça fait plaisir d'avoir toutes tes nouvelles. J'en ai régulièrement, mais je suis toujours content d'en avoir. Je voulais répondre à William. William qui m'a envoyé un super message concernant Bourdieu. Bourdieu, c'est un sociologue français, Pierre Bourdieu, sur lequel je tombe assez régulièrement, c'est vrai, par rapport à ce que je peux écouter. Comme j'écoute des trucs de manière un peu... holistique, c'est le mot, je dis souvent à la mode, je bois un petit coup. Et je ne suis pas encore intéressé à ces ouvrages ou quoi, mais je tombe souvent dessus. Et donc je vais lire juste une partie de ton message, William. C'est ça, c'est William, exactement. En gros, cela rejoint ton idée que l'on doit accepter le milieu dans lequel on a évolué toute notre vie et que tout n'est pas qu'une question de travail et de mérite. Que c'est sûrement en acceptant cette cruelle réalité qu'on serait un peu plus heureux. Nous sommes tous des hérités. En fait, ce qui est dur dans la vie, je vais dire dur, mais encore une fois, nous, on est des Occidentaux, on a quand même la belle vie. Hein, on va quand même pas, faut quand même relativiser. Mais ce qui est un peu dur dans cette vie, c'est que le temps qu'on prenne conscience du monde qui nous entoure, de comment c'est, etc., bah en fait, c'est comme si c'était déjà un peu trop tard. Je prends l'exemple, moi j'aime bien le sport, donc je prends l'exemple de sport. Si je savais tout ce que je sais aujourd'hui et que je pouvais dire au petit Rudy de 3 ans ou 4 ans, fais ci, fais ça, nanana, bah putain, ce serait fou. Pareil, si dès le début on vous dit voilà, ce qu'il faut, c'est être à tel endroit, côtoyer telle personne, poser des questions à ces personnes-là, lire tel livre, tout ça, et qu'on vous dit voilà, si tu fais ça, tu vas réussir, on vous fait miroiter un peu de rêve, tout ça. Vous allez le faire et vous allez avoir une vie complètement différente. Ce que j'ai l'impression de voir, c'est qu'en fait, on se réveille et que beaucoup de choses se sont faites de manière inconsciente, via notre éducation. On en revient par rapport à ce que nos parents nous ont transmis, nous ont dit de faire, par rapport aux professeurs qu'on a pu avoir à l'école, par rapport aux copains qu'on a eus, aux copines qu'on a eues, tout ça. Et qu'on se réveille, on se dit merde! Et moi, je suis assez d'accord, malheureusement, de mon expérience avec ce qu'a expliqué, je le cite souvent ce bouquin, Pourquoi eux, les secrets de leur ascension? Si à 25 ans, t'es déjà pas lancé dans un truc ou quoi, bah, c'est difficile ensuite, je vais dire, de retourner la situation complètement. C'est très difficile parce que tu as déjà pris tes habitudes, tu as déjà lancé ta vie, tu es déjà maturé, entre guillemets, et beaucoup de choses sont déjà mises en place. Alors bien sûr, avec plein de travail, voilà, si tu trouves une passion, tout ça, tu vas y arriver, mais c'est quand même assez dur. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Bah, voilà, comme tu le dis, William, bah, effectivement, c'est accepter cette cruelle. Je vais dire cruel entre guillemets parce que c'est pas cruel, réalité, que les choses sont comme elles sont, que toi tu peux faire des choses pour essayer d'améliorer, on va dire, ta vie dans le sens où tu l'entends, comme tu le voudrais, mais que de toute façon, si t'es pas né avec une cuillère en or dans la bouche, bah, c'est beaucoup plus dur en fait. Et c'est pas, tu vois, William, je sais pas si t'es sur Patreon, mais j'ai mis un lien il y a 2 semaines qui est vraiment à regarder, hein, qui est vraiment à aller voir, où justement la personne expliquait que voilà, si t'es né dans une famille où c'est deux ouvriers. Tes parents, bah, ça va être très dur. Tu vas pas finir médecin, quoi. Il y a peu de chance. Bien sûr, il y a les contre-exemples, mais c'est un peu ça qui se passe. Alors bien sûr, on va dire oui, mais regarde un tel, un tel, un tel. On va toujours prendre exemple sur les contre-exemples, sur les exceptions. Ce ne sont que des exceptions. Bien sûr, on peut croire qu'on est une exception, tout ça. Moi, j'aime bien me le raconter aussi des fois. Et après, la réalité me rattrape. C'est comme quand, allez, je raconte une blague. C'est comme OK, quand j'ai commencé. Sérieusement, je me suis dit, bah, je vais devenir champion olympique. Je me suis dit, voilà, moi, c'est pour les Jeux olympiques. Puis à un moment, la réalité te rattrape. Tu vois qu'il te manque plein de trucs. Tu as beau t'entraîner comme un fou, comme un fou, comme un fou. Tu progresses. Mais tu vois bien que ton plateau arrive un peu plus vite. Que des fois, bah, voilà, ça y est, là, tu es dans le dur. Qu'il faut en faire plus, 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 plus. Et que finalement, en fait, tu es limité par tes capacités de récupération, par ta technique, ta coordination, par plein de trucs en fait, qui s'apprennent beaucoup plus tôt que, certes, tu apprends, mais que il faudra sans doute des années, des années, des années. Et en fait, après, ce sera trop tard. À moins qu'il y ait les Jeux Olympiques Master, ça existe, les Master Games. Mais bon, pour l'instant, c'est pas très développé, c'est un peu caché tout ça. Mais pourquoi pas? Mais tu vois, c'est juste, tu acceptes et ça n'empêche pas de prendre du plaisir, d'être épanoui, de faire le truc. C'est juste qu'à chaque fois, des fois, on a des ambitions qui sont complètement démesurées par rapport aux moyens, pas qu'on est prêt à mettre en place, mais des moyens qu'on a, tout simplement. En fait, je rebonds un petit coup. Et je dis souvent un truc qui peut paraître salaud, mais comme je suis dans la trentaine, entre 30 et 40, je vois beaucoup de personnes qui prennent un peu de poids. Et comme demande mon avis, ils disent, ah, je dois perdre du poids, nan, nan. Je dis, bah écoute, je dis là, c'est vraiment le moment charnière parce que le poids que tu prends là, à 30 ans ou à 40 ans, est beaucoup plus difficile à perdre que quand tu as la vingtaine. Et souvent, on me répond, ah ouais, c'est vrai, nanana, tout ça. Donc je dis, bah voilà, il faut être capable de gérer la frustration, de ne pas manger pendant un moment. Pendant un petit moment, et ensuite tu pourras jamais remanger comme tu fais là. Faudra te restreindre entre guillemets toute ta vie. Je dis restreindre, mais c'est peut-être pas le mot, c'est manger plus sainement, manger mieux par rapport à soi, à ses besoins, par rapport à ce qu'on fait. Et la plupart des personnes, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle n'y arrive pas, en fait. Elle n'y arrive pas. Et donc, tout le truc, en fait, c'est d'anticiper. Tu vois, on dit accepter cette cruelle réalité. Mais tu as deux choix. C'est soit tu dis non, moi, je vais y arriver. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et donc, tu fais partie de ces exceptions, ce qui est pour moi, ce qui était pour moi ma norme hein, quand j'ai grandi, avec tout ce que j'ai pu voir dans la muscu, dans les gens que j'ai côtoyés, dans les gens que je côtoie. Donc, tu vas faire des efforts et tu vas y arriver. C'est pas un exploit incommensurable de perdre du poids. Hein, on connaît le chemin. Sinon, guide de la sèche naturelle. Super livre, hein, évidemment. Et pour la plupart des gens, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont pas faire les efforts et en fait, ils vont grossir petit à petit. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et on le voit bien, des anciens joueurs de foot, je vois des fois, ils commentent des trucs. Je vois des anciens sportifs de niveau qui commentent. Putain, tu les connais pas, ils sont bouffis comme tout. Ils ont une tête plus large que les épaules. Ils voient même plus leurs pieds à cause du bide. Franchement, c'est une catastrophe, quoi. Une catastrophe. Et donc, c'est pour ça que pour ces gens-là, bah, tu te dis, bah voilà, ils n'ont plus qu'à accepter parce qu'en fait, ils ne sont pas capables, tu vois. Ils n'ont pas eu les bases, l'apprentissage de par mes efforts, je vais avoir des résultats. Quel résultat, entre guillemets? Voilà, on ne sait pas quel résultat, mais au moins être mince, ça, c'est accessible pour, dans mon expérience, après avoir coaché quand même des milliers de personnes, pour tout le monde. Voilà. À moins que tu fasses 200 kilos, bah ouais, c'est compliqué, mais sinon, ça se fait. En tout cas, merci William de ton message. C'est vrai qu'il faut que je regarde un peu plus Bourdieu, qui m'a l'air d'être extrêmement intéressant. Enfin, je vais répondre à Dan avant d'aborder le sujet du jour. Ce sera peut-être un long podcast aujourd'hui, vous m'en voudrez pas. Bonjour Rudy, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais lire le message en entier parce qu'il est intéressant. J'écoute tes podcasts avec attention. Je me reconnais dans le style de vie de tes auditeurs. J'essaye d'optimiser ma vie au maximum et je passe souvent pour un extrémiste auprès des autres. Je me couche tôt, je fais du sport, je mange bien, je filtre mon eau, je cuis les légumes à la vapeur, je fais de la luminothérapie, je prends des compléments, je médite, je lis beaucoup, j'essaie de réduire la télé, le téléphone, etc. Et j'ai le droit à des réflexions du type « Profite, la vie est courte, tu ne sais pas t'amuser, ce n'est pas un verre qui va te tuer. » Ça me fait rire, rire, je pense rire jaune, moi ça me fait rire jaune maintenant, mais d'observer les gens, j'ai l'impression qu'ils me disent ça pour se rassurer de leur médiocrité. Si je t'écris aujourd'hui, c'est pour connaître ton avis sur ma situation, même si je pense avoir la réponse. Je suis actuellement en CDI, dans une grosse boîte française. Le salaire est confortable et j'ai beaucoup de congés et d'avantages. Le travail aussi est assez confortable par rapport à la moyenne des gens. Pour autant, je ne suis pas du tout épanoui dans cet emploi. J'y vais à reculons chaque jour. J'ai du mal avec l'autorité. Mes chefs ne me respectent pas, je n'ai aucun défi intellectuel. J'ai l'impression que mon cerveau se ratatine. Je suis très attiré par le métier d'agent immobilier, un métier d'entrepreneur avec plus de risques qu'un CDI pépère. Tout le monde dans mon entourage est contre moi. Mais moi, je pense qu'avec du travail et de l'envie, tout est possible. Pour autant, ce n'est pas évident de quitter un emploi confortable. Ce qui m'attire surtout, c'est de me lever tous les matins et faire quelque chose que j'aime, peu importe les heures, même si mon salaire est divisé par deux. Peut-être auras-tu un avis à me donner, un bon coup de pied au cul à me mettre. Merci d'avance pour ton aide. Quand je reçois ce genre de message, je suis toujours un peu surpris parce que, je ne sais pas vous, mais c'est déjà compliqué de s'occuper de sa propre vie, de savoir quoi faire, de choisir, on va dire, de prendre les bonnes décisions. Voilà, je dis souvent que la bonne décision, c'est de choisir, mais voilà. Moi, Daniel, quand je lis ton message, ta situation, elle me fait pas. Je la comprends parfaitement. Je connais plein de personnes qui ont un salaire confortable, qui vont à un travail où il n'y a aucun challenge, voilà, qui continuent, parce que ce travail leur permet, si ça ne prend pas trop de temps, d'avoir une vie en dehors de leur travail. Tu vois, dans le sens où ils peuvent faire des loisirs, ils peuvent peut-être aller en vacances, si tu n'habites pas où tu veux, voilà, tu peux t'échapper un peu de ta vie. Ou tu peux faire plein d'autres trucs, et comme tu as de l'argent, bah voilà, tu n'es pas limité pour faire tes activités. Je te donne un exemple. Demain, si tu faisais du vélo, un bon vélo, tu t'y mets un peu dedans, tout ça, c'est vite 5 000 balles. Bah voilà, si tu as un petit salaire, tout ça, ton vélo, tu ne te l'achètes jamais. Okay? Donc, ça, c'est le côté positif. À mon avis, tu as du temps en dehors, c'est cool, tu as une bonne vie, tu vois, tu as le temps de cuire tes légumes à la vapeur, faire de la luminothérapie, de méditer, de lire, tout ça. C'est cool. Tu vois, c'est quand même, moi, je trouve ça plutôt bien. De l'autre côté, si tu arrêtes tout ça et que tu te mets à ton compte, en tant qu'agent immobilier, j'y connais rien au métier d'agent immobilier, donc je ne vais pas te dire c'est bien, c'est pas bien, tout ça. J'ai l'impression qu'avec la conjoncture actuelle, c'est compliqué, mais bon, c'est toujours compliqué. Hein, c'est jamais le bon moment, on connaît l'histoire, en fait, le bon moment, c'est toujours. J'ai envie de te dire que ça, si tu es à ton compte, que tu es. Alors, il y a plusieurs choses. C'est soit tu es à ton compte et donc tu fais partie d'une franchise. Moi, je sais que c'est assez drôle, mais la maison, les apparts que j'ai, tout ça, j'ai tout acheté avec les mêmes franchisés, c'est Optimum Home. Et à chaque fois, ça s'est très bien passé. Donc, je suis très content de Optimum. C'est pour ça que je peux en parler un petit peu. Donc, c'est un truc où tu vas devoir gérer de la compta, tu vas devoir prospecter. Tu vois, j'en ai déjà souvent parlé. C'est un peu le mythe de l'entrepreneur où tu dis, ouais, c'est génial d'être entrepreneur, ça. Être entrepreneur, au début, quand je dis au début, c'est pendant quelques années, jusqu'à temps que ça marche vraiment, si ça va marcher. Et c'est pas dit que ça marche non plus, c'est du 24 sur 24. C'est toujours penser à des idées. Et là, tu dois aller démarcher des clients, tu dois aller voir les maisons. Les gens, c'est bien, il faut aller les voir. Et même quand tu les vois, tu dis oui, si vous connaissez des maisons avant, tout ça, c'est pas juste un flyer, ça, il faut vraiment mettre de l'humain. C'est un sacré travail. Et après, c'est une compétition contre les autres qui vont essayer de vendre le truc, aussi d'autres agents. Faut prospecter, il faut aller voir les gens, est-ce que vous cherchez, c'est mettre sur le bon coin. Mais voilà, faut casser un boulot. À temps plein, de créativité, de don de soi, et peut-être pour un salaire moitié moins, voire certains mois, pas de salaire. Ou peut-être à l'inverse, super. Donc ça va impliquer forcément moins de loisirs. Ça va impliquer un pouvoir d'achat diminué. Là, on reprend le vélo, bah, ton vélo, tu l'oublies. Tes vacances, tu les oublies parce que quand tu ne travailles pas, bah, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc tu vois, c'est aussi une prise de risque. Ce que j'explique dans mon bouquin The Leader Project, peut-être que tu l'as, Dan, si tu ne l'as pas, je t'invite à le commander, c'est qu'il faut se constituer, pour moi, pour tout changement de projet, une sorte de sécurité, sécurité financière. La sécurité financière, moi, je l'évalue à un an de salaire de côté. Pour la majorité des gens, c'est le livret A qui est rempli. Il faut que tu aies 22 900 euros sur ton livret A, auquel tu n'as pas besoin de toucher, sauf si tu te lances dans un autre truc. Donc là, par exemple, pour toi. Ça, c'est le côté rationnel. Tout ce que je te dis, c'est du rationnel. Maintenant, je vais te parler du côté émotionnel. T'as qu'une vie. Et franchement, si tu te fais chier aujourd'hui dans ta vie, pourquoi tu continues cette vie? Tu vois, t'étais pas là pour te faire chier, quoi. T'es pas là pour avoir l'impression qu'on n'exploite pas tes capacités, pour stagner, pour régresser. Tu vois, ça a pas de sens. Alors bien sûr, là, c'est la raison, le monde. Voilà, si on remet de la rationalité, c'est une histoire d'argent, tout ça. Mais si tu as des sous de côté, tu as de quoi tenir le temps de te lancer, de voir, et au pire, a priori, là, tu as un bon boulot, donc peut-être que, je sais pas, tu as un bon diplôme, tu as de l'expérience, je ne sais pas quel âge tu as, tout ça, mais tu pourras retrouver peut-être facilement ensuite du travail si ça ne marchait pas ce que tu voulais faire. Vas-y, vis quoi. J'ai envie de te dire, mais vis ta vie. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. C'est souvent, pour toi, ton message me fait un peu sourire dans le sens où, en fait, moi, j'en sais, c'est ta vie, quoi. C'est pas à moi de te dire comment vivre ou quoi, mais c'est à toi de choisir comment tu veux vivre. Donc, vis ta vie, et si tu veux changer, bah, change. C'est tout. T'as pas besoin de validation d'autres personnes ou, voilà, t'en fous des autres. Là, ce que j'ai envie de te dire, c'est même ton entourage, faut le changer. Tu vois, est-ce que t'es capable de le changer? Ça, c'est une autre question, mais il faudrait le changer. Parce que là, c'est des gens qui te tirent vers le bas, tu vois. Y a personne dans la vie qui doit te dire comment tu dois vivre. J'ai un exemple, moi, qui est assez frappant. Je ne sais pas si c'est beaucoup d'entrepreneurs qui m'écoutent, mais c'est l'histoire du comptable. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes entrepreneur, vous devez avoir un comptable. À moins que vous soyez auto-entrepreneur, mais voilà, si vous avez une société ou plusieurs sociétés. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui discutent d'entrepreneurs. Je leur dis, alors, ça marche les affaires? Elle dit, bah, je ne sais pas, j'attends de voir ce que le comptable va me dire. Et quand elle me dit ça, je dis, mais c'est quoi cette histoire? Si tu as. Je n'en dis pas parce que c'est dans mon avis, mais dans ma tête, je me dis, mais attends, tu ne fais pas ta compta tous les mois ou tous les 3 mois, par exemple pour la TVA, pour savoir combien tu as gagné, combien tu as dépensé, ce que tu peux dépenser, tout ça. La majorité d'entrepreneurs ne savent même pas combien ils gagnent. Ils sont obligés d'attendre le bilan comptable pour savoir ce qu'ils ont fait, s'ils ont trop dépensé, pas assez dépensé, ce qu'ils peuvent faire. Ce qui est incroyable à mes yeux. Ce qui est incroyable et ce qui montre que beaucoup de personnes ne sont pas faites pour être entrepreneurs. À partir du moment où tu dois déléguer tout ça, tu vois, c'est complètement fou. Je rebois un coup. C'est un monde de dingue. C'est un monde de dingue. Donc, ouais, je vais te dire, vas-y. Si tu veux prendre ta vie en main sur tous les aspects, fonce. Et surtout, vis comme tu as envie. C'est pas des gens de te dire comment tu dois vivre. Tu vois, pas comme comptable, tu dois dire, normalement, tu prends les clés et tu y vas. J'ai un copain que j'ai eu au téléphone, là, que j'avais vu il y a quelques années, qui faisait des tournois super physiques, tout ça. Et ça faisait 2-3 ans que je n'avais pas eu de nouvelles, mais on s'est appelé. Et c'est drôle, lui, il était dans charpentier à la base, et là, il fait des aménagements de vannes. Et il me raconte qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, tu vois, bah, c'est la nouvelle mode, hein, vous voyez, tout est à la mode maintenant. Et il me racontait que beaucoup de personnes vendaient leur appartement, achetaient un van qui a un camion un peu pourri, et en fait, après, demandaient des aménagements. Et il me disait que, donc lui, il est là-dedans maintenant, que des gens, des fois, dépensaient 50, 60 000 euros dans leur van, un truc de malade, cas pour moi, hein, et après, vivaient dedans, fantasmaient cette idée-là. Donc après, il n'a pas trop de retour parce que ça fait pas longtemps qu'il fait ça. Tu vois, c'est à toi, encore une fois, de choisir ce que tu veux vivre ou pas vivre. Moi, je pense que on regrette jamais ce qu'on essaie, ce qu'on tente, ce qu'on vit, mais on peut regretter ce qu'on ne fait pas. Donc, mieux vaut pas regretter. C'est comme là, je peux te donner un exemple. J'ai vu un gars qui peut-être me faire un kayak sur mesure. Ça va coûter un saladier. En même temps, si je ne le fais pas, je vais sans doute le regretter. Et je me dis, bon, bah voilà, tu travailles, à un moment, il faut quand même tester des choses ou quoi. Donc bref, Dan, tu connaissais déjà la réponse. Donc moi, je suivrai le côté émotionnel. Si tu as au moins ton petit ta petite année de salaire de côté. Alors, maintenant, ce dont je veux vous parler, je ne sais pas, ça fait combien de temps que je parle, mais on s'en fout. Je viens de finir. Il me reste un chapitre, il me reste 20 pages, mais un excellent livre. Le talent ne fait pas tout. Donc le bouquin, c'est le titre, donc vous pouvez le retrouver facilement sur toutes les librairies en ligne, peut-être à la Fnac, Cultura ou autre. Bref, et donc, comme d'habitude, j'avais plus rien à lire. J'avais fini mon bouquin un peu complotiste, que je pensais pas être complotiste, mais qui se lisait bien, que je vais garder. Et j'avais un autre livre que j'avais commencé, qui était nul, que je donne à qui souhaite le lire. Donc bref, si vous avez passage à la vie superficielle, vous avez un petit tas de livres dont vous pouvez vous servir sans aucun souci. Et voilà, pas que je tombe sur une table, sur ce bouquin-là. Dernier exemplaire, Le talent ne fait pas tout. Et je me suis toujours souvent intéressé, vous savez, à comment on réussit. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent, d'autres ne réussissent pas? Quels sont les secrets? Et l'un de ces secrets, qui est souvent mis en avant, dont Malcolm Gladwell avait parlé dans son bouquin Tous Winners, que j'avais recommandé, dont j'avais parlé, c'est la pratique délibérée. C'est-à-dire pratiquer une activité sans vraiment s'en rendre compte, sans se forcer à la faire, et qui amène au bout d'un moment, c'est la fameuse théorie des 10 000 heures, c'est grosso modo, hein, c'est une généralité, voilà, qui amène à l'excellence plus ou moins, voilà, en fonction de certains d'autres paramètres. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce bouquin, c'est qui définit la pratique délibérée. Parce que la pratique délibérée, quand on écoute ça, on pourrait se dire que c'est juste je fais une activité sans trop y penser, et voilà, ça rentre tout seul. C'est comme, je vous donne un exemple, vous êtes en train de travailler sur l'ordi, la fois j'en parlais avec un copain, et puis vous écoutez un podcast en même temps. En fait, vous faites bien ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est ça la vérité qui se passe. Et donc, vous n'écoutez pas un podcast de manière délibérée, vous n'écoutez pas le podcast. Ou vous ne travaillez pas de manière délibérée, vous ne travaillez pas, vous faites de la daube. OK? Or, la pratique délibérée, ce qui rend vraiment talentueux, ce qui permet d'atteindre l'excellence plus ou moins, je dis plus ou moins parce qu'on n'atteint pas tous la médaille d'or olympique, il y a quand même des prédispositions physiques, génétiques, je pense que j'en ai pas mal parlé dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, et je le montre bien, notamment dans mes cours en CQP, surtout l'analyse morpho-anatomique, voilà comment on est fait, pourquoi on est fait, ce qu'on peut faire ou pas, nos différences. Il n'empêche que cette pratique délibérée, bah, elle est accessible, je vais caricaturer, à tous. Qu'est-ce que c'est la pratique délibérée? La pratique délibérée, en fait, c'est complètement. C'est ça qui est fou, c'est que des fois, il y a des choses qui sont tellement du bon sens que comme on n'est plus du tout dans une société de bon sens, on ne pense même pas à tout ça. La pratique délibérée, c'est de pratiquer en conscience, en étant à ce qu'on fait, puis de conscientiser ce qu'on fait. D'avoir peut-être ou pas un retour sur ce qu'on fait, soit de nous-mêmes, parce qu'on est assez expert, soit d'un entraîneur, d'un coach, d'un mentor, je vais y revenir, puis ensuite de mettre en place directement la correction. Or, je vais prendre un exemple très simple, parce que c'est ce que je fais au kayak sans avoir, bien avant d'avoir lu le bouquin. Quand je fais du kayak, notamment sur des séances, on va dire, un peu faciles, techniques, aérobie, voilà, à chaque coup de pagaie, je pense à ce que je fais. Ça peut paraître fou pour certains, mais pour moi, c'est comme ça. C'est comme en muscu. Quand je fais un mouvement, et j'en ai souvent parlé dans le Superphysique Podcast, donc mon podcast qui sort tous les vendredis, je suis en train d'utiliser mon muscle. Donc je pense à, par exemple, je fais une élévation latérale, Je pense à contracter, même si ça se fait automatiquement, mais je pense à mon faisceau moyen deltoïde qui se raccourcit. C'est ça qui fait lever l'haltère. Okay? Et à chaque répétition, j'essaye d'accentuer ce travail. Okay? Quand je suis au kayak, à chaque coup de pagaie, je pense à bien mettre mon pied en appui, bien rentrer la pagaie, tout connecter, faire une rotation, et à chaque coup. Et chaque coup, dans une séance, c'est des milliers de coups de pagaie. On ne se rend pas compte, mais si on compte, c'est, allez, je caricature pour le calcul, 60 coups de pagaie minute. Si ça dure 1 heure et demie, 90 minutes, 90 fois 60, 6 fois 9, 54, 5 400 coups. Vous vous rendez bien compte que vous mettez un nombre de coups incroyable. Et tout ce qui est sur cette pratique délibérée et qui permet d'accéder au talent, c'est assez drôle parce qu'effectivement, ma pratique, mon évolution, je rebois un coup. J'ai la gorge qui me gratte un peu avec ce temps qui n'arrête pas de changer. Normalement, ce week-end, on va se régaler. Bref, ce qui a accéléré ma progression, quel que soit le domaine, à chaque fois, ça a été ce retour sur ce que je faisais. Je vais prendre un exemple, muscu. Quand je me suis mis à la muscu, assez rapidement, des DVD de muscu sont sortis. Et en fait, je regardais beaucoup de DVD de muscu dans la journée avant d'aller m'entraîner. J'analysais leur entraînement. J'allais chez Michael Gundil, qui est auteur de plein de super bouquins que je vous recommande. Et on regardait les DVD. Il me disait, tiens, regarde ci, regarde ça. Et effectivement, je comprenais certaines choses. Je voyais certaines choses et je me disais, ah bah oui, effectivement, voilà, je comprends. Et donc après, j'en regardais plein, 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 plein. Donc j'en ai plein. D'ailleurs, que j'en ai parlé la dernière fois ou il y a quelques temps. Je peux redonner à certains s'ils sont de passage. Il y en a des super. C'était bien avant la mode de tout ce qu'il y a sur Internet. Donc, c'est des vidéos pour moi un peu collector. Et donc, en fait, je m'entraînais. Je regardais comment faisaient les personnes. Donc, j'avais un retour, entre guillemets. Et ensuite, j'essayais de réappliquer. Il y avait ces trois parties. Je fais. Il y a une introspection ou quoi. Et un retour. En kayak, j'ai commencé à vraiment progresser. Pendant des années, j'avais expliqué dans le podcast numéro 100 des secrets du kayak. S'il y en a qui veulent l'écouter, c'est comment j'ai découvert le kayak, comment j'ai progressé, tout ça. J'ai commencé à progresser, qu'à partir du moment où j'ai rencontré mon pote Chris, qui était avec Belette, et qui a dit à moi et mon pote Bernard, voilà, on va faire ça, on va faire ça, qui nous faisait des retours à chaque séance, limite des fois à chaque coup de pagaie de manière sympathique. Il disait, voilà, mets plus la pagaie comme ça, mets plus le pied comme ça, fais plus ci, monte la main, tac. Et donc j'avais un retour direct en disant, est-ce que là c'est mieux? Oui, non. Et donc il y avait cette optique et cette pratique en conscience. On pourrait apparenter ça à un travail, à quelque chose de chiant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pratiquer une activité que pour les résultats, que pour la sensation, tout ça. Mais la vérité, c'est que, la mienne en tout cas, c'est que tu peux pas t'épanouir ou prendre du plaisir dans une activité sur le moyen et long terme si tu n'as pas cette démarche de pratique délibérée. Et quand j'analyse ce que j'ai fait, ça a toujours été ça. Quand je fais mes premiers articles sur le net, je les envoie, on me dit, tiens, il faudrait que tu modifies ça. Il y a toujours quelqu'un qui me faisait un retour. Aujourd'hui, quand j'écris un article, je le relis tellement de fois, je le corrige. C'est vraiment que je n'ai pas écrit, mais le dernier, c'était peut-être un truc sur les émomes, sur mon site rudicoya.com. Bref, l'article référence sur les émomes sur le net, hein. Il y a pas mieux par rapport à tout ce que j'ai pu voir. Et donc, en fait, je le lis quand j'écris, je relis, je vais lire tous les articles qui existent, je vais chercher dans les bouquins que j'ai. Et je vais le confronter et je vais tester. Donc, j'en ai testé un paquet, hein, forcément, depuis le temps que je m'entraîne, plus de 20 ans. Ensuite, je vais le faire. Et puis, sans doute, des fois, je vais le réécrire. Je vais le réécrire. Je vais dire, ah ben non, mais il manque ça. Tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Donc, il y a toujours ces trois phases-là. Et ces trois phases-là, en fait, c'est pas juste. Donc, je pratique et puis on verra ce que fait le temps. Non, c'est je pratique avec l'optique de m'améliorer, avec se dire comment je peux faire pour m'améliorer. C'est pas juste je plante la pagaie et puis voilà. C'est pas juste. Je vais courir et puis je cours, je laisse mon esprit divaguer. Ça, ok, ça peut le faire, mais c'est. Je donne un exemple, moi aussi, quand je cours, qu'est-ce que je fais? Et c'est drôle parce qu'en fait, je le fais automatiquement, c'est calme ta respiration, respire calmement, comment tu mets tes pieds, fais attention à ça. Alors après, évidemment, mon esprit parfois divague parce que j'ai pas ma capacité de concentration énorme. Et dans le bouquin, ils en reviennent à ce que j'ai souvent dit d'expérience, c'est qu'on a entre 3 et 5 heures d'attention maximum par jour. Et donc, dans le bouquin, bah, il conseille de faire plusieurs sessions de 45 minutes, 1 heure ou 1 h 30 par jour, en expliquant qu'au-delà de 5 heures par jour, une moyenne encore une fois, et bah, en fait, au-delà de ces 5 heures, tu ne peux pas, tu ne peux pas continuer à profiter de cette pratique délibérée. C'est comme si tu étais un peu saturé nerveusement. Et donc, c'est hyper intéressant parce que ça montre que le problème, comme toujours, c'est pas de faire une activité pour le résultat, c'est pas juste de faire, c'est pas juste d'aller à la salle si vous faites de la muscu, puis dire ah, vite les résultats. J'en ai souvent parlé aussi au fil des épisodes, on est, je sais pas combien d'épisodes, 400 bientôt, 385. Donc là, c'est 386e. J'en ai souvent parlé. Au début, quand tu débutes une activité, c'est normal que tu appliques un peu bêtement. Tu dis, voilà, c'est ça, on va corriger la technique des exercices, tout ça, parce que tu n'es pas encore vraiment intéressé par le truc. Déjà, mes débuts, c'était un peu ça. Tu es là, tu fais, tu es content, personne ne te corrige, voilà. Mais la vérité, c'est que, et c'est aussi pour ça qu'avoir un coach, un mentor, quelqu'un qui regarde ce qu'on fait, tout ça, c'est un accélérateur, il te faut un retour. Il faut, c'est pas le mot, mais si tu ne t'intéresses pas à l'activité que tu es en train de faire au bout d'un moment, que tu ne prends pas conseil auprès de personnes plus expérimentées, qui sont déjà dans le milieu ou quoi, quel que soit le milieu. Et prendre conseil, ça peut être juste lire leurs ouvrages, ça peut être, je sais pas si tu veux être écrivain, ça peut être, je sais pas, tu fais du kayak, bah là j'ai fait un podcast sur le kayak, j'ai interviewé tous les gens, je regarde toutes les vidéos, j'analyse la technique, tout ça, de manière intentionnelle, et qu'après tu n'essayes pas de mettre en place, tu vois, tu n'es pas en conscience, tu n'as aucune chance d'atteindre ton excellence. Alors d'un côté, c'est pas très grave, il y a des gens qui n'ont pas envie, qui font juste quelque chose pour le plaisir. Le plaisir, vous savez ce que j'en pense, c'est un truc la plupart du temps qu'il faut fuir, il ne faut pas se donner trop de plaisir, trop de plaisir, trop de plaisir, parce que sinon à la fin, tu ne fais plus rien. On a compris, c'est un peu anti-construction long terme, c'est anti-bonheur, c'est un petit bonheur fugace. C'est pas ma vision de la vie, mais bref. Et donc, ce que j'avais expliqué, c'est que j'ai beaucoup d'élèves, au bout d'un moment, je leur dis, bah voilà, je dis, il faut que tu t'intéresses plus à l'activité. Je l'ai dit dans les podcasts Super Sick, lisez les articles d'anatomie sur le site, comprenez comment fonctionnent vos muscles, regardez telle ou telle vidéo, lisez tel ou tel article. Vraiment, essayez d'avoir un retour sur ce que vous faites, de comprendre les choses pour être acteur de ce que vous faites. Et en fait, la pratique délibérée, c'est que ça. C'est être acteur de ce qu'on fait. Si vous n'êtes pas acteur de ce que vous faites, vous ne pouvez pas attendre l'excellence. Et c'est pour ça que j'ai particulièrement apprécié ce bouquin. Et il parle justement à un moment de la passion. Je vous spoil un peu le bouquin, mais je vous invite vraiment à le lire. Il est vraiment très, très intéressant. Le talent ne fait pas tout. Il parle de comment on se passionne pour une activité. Et c'est vraiment en phase avec ce que je pense. C'est quand tu es gamin, des gens, je vais prendre mon exemple. Voilà, c'est le seul que je connaisse là-dessus. Mais quand j'étais gamin, je me souviens qu'à un moment, je vois il y avait les chiffres et j'apprends les tables de multiplication, je crois, à 4-5 ans, par cœur, quoi. Vraiment, je les apprends une fois, par cœur. Et après, on me dit, oh, putain, mais t'as de la mémoire, tu retiens bien, tu comptes bien, nanana. Et c'est un truc qui m'a toujours suivi. Parce qu'on m'a encouragé progressivement au fil des années, intentionnellement ou pas, tu vois, je pense qu'ils n'avaient pas conscience de tout ça, mais on m'a encouragé dans une voie. On m'a dit, bah voilà, quand j'ai fait de l'athlé, l'athlétisme, j'étais à l'école, je courais un peu vite, on m'a dit, ah, putain, mais tu cours vite, tiens, va voir au club d'athlé, va voir là, nan, nan, paf, tu cours vite, tu cours vite, tu cours vite, tu as envie de t'entraîner plus. C'est un. Comment? Un entretien, c'est pas un entretien, je veux dire, ouais, j'ai perdu le mot. Bref, vous avez compris le truc. Et donc, en fait, on entretient le truc. T'es gamin, on dit, tiens, t'es doué pour ça, t'es doué pour ça, ou t'es pas doué pour ça. Et bah, si t'es pas doué pour ça, ah, ça va pas. Moi, je sais pas, j'avais un peu des capacités. Donc, je dis, ah, bah, t'es doué pour l'école. En fait, j'avais surtout de la mémoire. Parce qu'on m'a dit dès le début que j'avais de la mémoire, donc forcément, j'ai retenu. Il y a sans doute des capacités un peu innées aussi. Mais il y a plein de techniques sur la mémoire. Il y a d'ailleurs un excellent livre qui est accessible à tous, et même à moi qui connais pas grand-chose, c'est de Fabien Olicard et de Michel Simès sur la mémoire. C'est un petit bouquin, il coûte même pas 10 balles, il est vraiment super intéressant pour apprendre des techniques, pour mieux mémoriser tout ça. Je vous invite à le lire, celui-là était vraiment super. Bref, ça fait quand même beaucoup de livres à lire, mais j'imagine que vous allez les lire. Et donc, sur cette histoire de passion, en fait, toute l'idée derrière pour exceller dans quelque chose et faire cette pratique délibérée, qui en fait est une pratique qui peut sembler chiante, pas intéressante, sacrificielle, parce que passer quelques heures, alors là on parle de 4-5 heures, c'est le maximum, mais même si vous passez 1 heure par jour, voilà, ça ne peut marcher que si c'est une activité dans laquelle vous vous épanouissez de manière, on va dire, intrinsèque et aussi autotélique. J'avais parlé il y a quelques podcasts, si vous tapez motivation autotélique, vous mettez musculation avec haltère, motivation autotélique. Fabrice avait écrit un super article sur les types de motivation. Je vous invite à aller le lire. Il était vraiment super. Je crois que c'est sur musculation avec haltère. Je ne suis plus sûr, mais bref. Vous irez voir si ça vous intéresse. Motivation autotélique. A-U-T-O, et autotélique, T-E-L-I-Q-U-E. Et donc, là où je veux en venir, c'est que, en fait, tout est conditionné, encore une fois, on voit dès l'enfance. Si dès l'enfance, on vous met sur quelque chose, vous allez Continuez dans une activité, une activité, une activité. Vous allez vous prendre au jeu de l'activité qui va vous motiver en elle-même à être pratiquée. Et c'est un peu pareil dans tout. C'est pour ça que ce que je pense comprendre de la vie et de l'excellence et de la réussite, c'est que tout part en fait d'une éducation, d'un encouragement, de... Je prends l'exemple aussi du rameur. Moi, je suis parti en fait pour le rameur, pour l'aviron, mais rameur, voilà. L'aviron, il faut une sacrée technique. Je vous invite d'ailleurs à voir le film Il n'était qu'un seul homme, qui vient de sortir sur, je sais plus quelle plateforme de streaming, qui est une histoire vraie, romancée, comme je dis souvent, d'une équipe d'aviron en 1936. C'est un des seuls films que j'ai réussi à aller jusqu'au bout, hein, parce que les autres, j'y arrive pas, c'est nul. Bref, ça m'a particulièrement intéressé. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ça se réserve peut-être pas qu'à l'enfance. Quand tu vois quelqu'un, moi je vois, la dernière fois j'ai vu un gars à la salle qui venait peut-être s'inscrire, je l'ai vu, je dis, t'es fait pour le rameur. Alors peut-être que ça va lui planter une graine, il va dire, bah ouais, effectivement, il faudrait peut-être que j'essaye. Et puis il va essayer, comme j'ai l'habitude de déceler un peu les potentiels, il va dire, bah ouais, effectivement, putain, je suis vachement fort. Et moi, c'est ce qui s'était passé. J'avais jamais fait de rameur vraiment de ma vie. Première fois que j'en fais, je fais une 23 ou 500 mètres. Incroyable. Il y a des gens, toute leur vie, vont s'entraîner, ils les feront jamais. Et donc, je m'étais un peu entraîné n'importe comment, j'avais fait une 18. Une 18-3 pour les plus spécialistes. Et voilà. Donc, des fois, il ne suffit de pas grand-chose. Il suffit de quelqu'un croire en vous, des personnes qui vous disent que putain, tu as l'air doué pour ci, tu as l'air doué pour ça. On commence, on se dit, bah tiens, effectivement, j'ai des résultats, nanana, si la personne ne s'est pas trompée, ou on se convainc qu'on a des résultats, on en revient aux croyances. On s'intéresse à l'activité, à comment elle fonctionne, tout ça. Puis ensuite, bah forcément, c'est l'engrenage de la passion. On aime, on aime, on aime, on aime. Et puis à la fin, qu'à la fin, il n'y a pas de fin. Et bien en fait, on fait de la pratique délibérée à chaque fois qu'on fait quelque chose, de manière non intentionnelle, de manière normale, ça devient notre norme, et on finit par exceller. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre s'entraîner et s'entraîner dans n'importe quelle activité. Ce que je constate souvent, c'est en muscu, voilà, je vois des gens s'entraîner, des fois je dis, mais ils ne s'entraînent pas. Ce n'est pas l'entraînement, ce n'est pas ça. Quand je suis dans ma série, je suis dans ma série. Je suis on, je ne suis pas off. Il y a des gens, quelle que soit l'activité, sont toujours off en fait. Et donc ils ont l'impression de pratiquer, mais ils pratiquent pas parce qu'ils sont pas à ce qu'ils font. Il n'y a pas cette pratique délibérée, cette pratique en conscience. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est vraiment ça. Et finalement, donc c'est moins, je reviens toujours à ce truc-là, c'est toujours moins une histoire peut-être de talent. Daniel Coyle, dans son bouquin Le Talent Code, disait le talent c'est la répétition. C'est la répétition en conscience. C'est la répétition d'être à ce que je fais. C'est ça qui fait la vraie différence à terme. Encore faut-il trouver ce qui nous fait plaisir, ce qui trouver cette petite passion. Et c'est vrai que si on a évolué dans un environnement dans lequel on ne nous a jamais encouragé, je pense un peu à Dan et son message, où on dit non, tu vas pas y arriver, c'est trop dur, profite, fais ci, fais ça, nanana, et qu'on donne du crédit à tous ces gens-là, ben en fait, c'est sûr qu'on peut arriver à rien, parce qu'en fait, on apparente tout ça à des sacrifices. Ah, mais pourquoi j'entraîne autant? Pourquoi tu lis ça? Mais tu passes trop de temps à faire ci. On vous sape vos possibilités. Parce que, et vous êtes aussi responsable de ça parce que vous y croyez. Parce que peut-être vous n'avez pas grandi avec quelqu'un qui vous a dit que vous pouviez. Voilà, il y a ça aussi. Moi, j'avais raconté dans le The Leader Project, encore une fois, troisième pub pour ce bouquin, qui est mon meilleur bouquin quand même. Avec ma mère, moi, elle m'a toujours dit, tu peux, tu peux, tu peux. Elle était toujours... voilà, c'est la mère qui croit vraiment en tout. Voilà, elle a aucune idée, mais elle connaît rien. Mais oui, tu peux, tu peux, tu peux. Voilà. Mais moi, quand j'étais gamin, hein, maintenant c'est un peu différent. Je rebois un coup. Mais c'est vrai que tout se joue là, et encore une fois, c'est une histoire d'environnement. Là où tu te trouves, les personnes que tu côtoies vont te permettre de réaliser, de croire en certaines choses qui vont te faire adhérer ou pas à une ou plusieurs activités que tu vas faire avec plaisir, auxquelles tu vas t'intéresser, que tu vas pratiquer délibérément sans t'en rendre compte, en disant putain, le temps passe vite. Ça, c'est un signe quand tu fais une activité. Vraiment une pratique délibérée, une activité délibérée, le secret du talent, le secret de la réussite, mais en fait le temps passe super vite, tu n'arrives pas à te rendre compte, tu dis mais putain, mais ça fait déjà tout ce temps-là, tu es absorbé, tu es dans le flow, tu es dans le truc, et mais ouais, c'est que comme ça que tu deviens bon. Si tu fais juste l'activité en conscience, mais que tu n'as pas de retour, tu sais pas vraiment ce que tu fais, pour ça que je dis souvent, moi je l'impose un peu en coaching à distance, donc si vous faites appel à mes services en coaching, je vous ferai filmer vos exercices progressivement, pas tout d'un coup, mais 2, 3, 4 par semaine, jusqu'à temps qu'ils soient tous nickel. Parce que quand on se voit, on a un retour direct. Donc si vous êtes tout seul et que vous entraînez, filmez-vous, regardez ce que vous faites, comparez à ceux qui font a priori correctement, et dites, ah oui, effectivement, c'est pas bon. Il y a toute cette remise en question. Et en fait, c'est comme dans la vie, et je conclurai peut-être là-dessus, c'est qu'une bonne vie, en fait, c'est une vie qu'on remet en question perpétuellement pour qu'elle corresponde plus à ce qu'on souhaite pour, entre guillemets, ne pas se poser la question de comment devenir heureux, c'est être heureux tout court. T'es dans ton truc. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ce bouquin sur cette histoire de comment on devient passionné, sur la vraie définition de la pratique délibérée et comment on peut l'appliquer. Alors après, le livre est un peu un livre à l'américaine, des fois c'est un peu redondant tout ça, mais il est vraiment super. Et c'est pas plus compliqué que ça, quoi. C'est pratiquer en conscience. Et donc ça met d'autres mots sur ce que j'ai essayé de partager, sur ce que je partage depuis des années, à savoir un peu l'obsession du truc. Quand tu es en train de faire une activité, bah, tu es dedans, tu es en conscience et tu te remets en question. Et est-ce que je peux faire mieux? Tu es dans cette volonté de progresser, en fait. C'est cette volonté de progresser qui fait toute la différence. Parce que quand tu veux progresser, tu t'intéresses, tu demandes des avis, tu poses des questions et tu remets direct. Mais c'est ce que je fais à chaque coup de pagaie, quoi. C'est ça qui est drôle. À chaque séance, je suis là. À chaque coup de pagaie, j'y pense, j'y pense. C'est vraiment rare que je pense pas à un coup de pagaie. Alors, des fois, si je fais un sprint, voilà. Mais même quand je fais un sprint, vu qu'il me manque quelques trucs de coordination, j'ai le temps de penser. Et c'est vrai que j'ai cette sensation aussi que quand tu arrives à ralentir le temps, c'est que tu es vraiment immergé dans ce que tu fais. Je vais prendre un exemple. Si vous arrivez à mettre de la conscience ou de la pensée sur ce que vous faites, quelle que soit la vitesse où vous le faites, vous êtes dans cette pratique délibérée. Vous êtes dans ce truc-là. Et si tu n'arrives pas à penser, que tu t'en mêles, moi, c'est ce qui se passait quand je faisais des sprints en kayak à un moment, et ça m'arrive encore. Hein. Je disais un sprint et tu te crispes dans tous les sens. Et en fait, pas du tout. Il faut que tu sois relâché justement pour le faire. Et pour dire, tiens, mets le coup là, tiens, accélère, 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 accélère. Si vous êtes en capacité, voilà, je vais finir peut-être là-dessus, vous êtes en capacité de vous parler pendant une activité, de vous encourager, de vous dire, tiens, essaye ci, nanana, vous êtes pour moi dans une pratique délibérée. Et c'est pas la réflexion empêche l'action, c'est, j'ai envie de dire, la réflexion amplifie l'action, améliore l'action, là, pour le coup. Et parce qu'on pense directement à ce qu'on fait et pas aux courses qu'on est en train de faire. Bref, je sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais comme vous avez entendu, c'est quelque chose qui me passionnait et dont j'avais envie de vous parler. J'espère que ça vous donnera envie de lire le livre. Encore une fois, quand on lit un livre, c'est seulement ma vision. Vous en retirez sans doute aussi autre chose. N'hésitez pas à réagir dans la partie commentaire sur SoundCloud ou à m'envoyer un message. J'étais 3 semaines à m'écrire, donc n'hésitez pas. Il y a le lien contact dans la description. Ceux qui veulent aller plus loin avec mes conseils, je rappelle plusieurs choses. Patreon.com/leadercast, c'est mes conseils avec mes idées du moment. C'est en lien dans la description. Et sinon, bah, mes deux livres, The Leader Project, Comment vivre de sa passion, qui est mon meilleur livre, et mon dernier livre, The Life, sur la remise en question de pas mal de choses, sur comment vivre une bonne vie, selon moi, qui vous apportera sans doute pas mal de réflexions, que je vous envoie également avec un petit flyers de mes 10 commandements. Bref, si ça vous intéresse, il y a toutes les informations dans la description pour aller voir plus en détail. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.